Bonjour, frères, sœurs et ceux qui assistent à cette partie, Seigneur, où est-ce qu'on va parler de Dieu et de notre relation avec Dieu. Je vous remercie d'être là et j'espère que que tous ensemble, nous allons pouvoir parler de Dieu et recevoir Dieu aussi. Nous allons lire un texte dans Malachie tout à l'heure, mais j'aimerais vous mentionner tout d'abord que le texte que nous allons lire est assez spécifique. Il est spécifique au peuple de Dieu et à Malachie, au prophète qui parlait à Israël. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de connexions avec aujourd'hui, beaucoup de liens qui peuvent se faire. Tout simplement parce que le projet de Dieu, le projet ultime de Dieu, le projet de Dieu qui a toujours été cela, c'est que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce texte nous emmène exactement là. Et c'est ce que ça veut dire, revenir à Dieu, connaître la vérité et marcher dans la vérité. Et je dois vous dire qu'à bien des niveaux, lorsque l'Esprit m'a amené à parler de ce texte, j'ai été interpellé comme chrétien. J'ai d'abord été interpellé comme chrétien. Et sans plus tarder, on pourrait lire dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 7, jusqu'au verset 12, s'il vous plaît. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » dit l'Éternel des armées. Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Excusez, vous me trompez. Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu demande à son peuple de faire des pas dans sa direction, d'essayer de comprendre que l'Éternel des armées voudrait voir le cœur de ce peuple. C'est ce que l'on va essayer de voir, comment est-ce que Dieu s'y est pris pour montrer cela à son peuple. Premièrement, le nom que Dieu utilise dans sa parole pour nous montrer à qui ils doivent revenir. Le nom que Dieu utilise est significatif. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est un nom prestigieux qui dépasse tout entendement. Ce n'est pas seulement que le Dieu de l'armée d'Israël, comme David l'avait dit lorsqu'il combattait contre Goliath. Ce n'est pas seulement que ça. Si David utilisait ce nom-là, c'était circonstanciel. C'était la circonstance qu'il disait comme ça. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de l'armée d'Israël, mais d'une toute autre armée. Excusez. La traduction grecque du mot « éternel des armées » est « pantocrator », tout-puissant, Dieu tout-puissant, qui a une armée immense, une armée dans toute la création, une armée au niveau visible, au niveau invisible, une armée au niveau spirituel, au niveau réel. Une grande armée, une armée qui possède plusieurs divisions, plusieurs groupes composés de toutes sortes de troupes organisées et commandées par l'Éternel. Il faut n'en nommer que quelques-uns, la division des anges. Et à Bethel, Jacob voyait les anges monter et descendre de l'échelle qui touchait les cieux. Et même le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il disait à Pierre, « Penses-tu que Dieu ne pourra pas m'envoyer 12 légions d'anges pour me défendre, s'il voulait? » Une armée d'anges. Une autre facette de l'armée de Dieu, c'est les étoiles. Pour nous, c'est juste des points scintillants dans le ciel, mais pour Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Il disait dans Ésaïe 40, 26, « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. » De voir cela nous montre une facette de Dieu qui est immense. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous par leur nom, par un grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Une armée obéissante. Une autre division de l'armée de Dieu, les forces de la nature. Les forces de la nature, on voit dans Néhémie 9, 6, qui dit, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Toute cette armée-là obéit à Dieu. Toute cette armée-là, dans un seul mouvement, obéissant à Dieu. Le peuple juif voyait, par l'instruction du Dieu Tout-Puissant, voyait une armée aux divisions immenses, immensément diverses, et obéissant à la volonté d'un seul chef. Voilà la personne qui demande de revenir à lui, qui demande de se repentir. Ce n'est pas n'importe qui. C'est beaucoup plus qu'un président ou qu'un colonel ou qu'un quoi que ce soit d'un grade quelconque. C'est plus qu'un chef militaire. C'est le chef de tous et le chef de toutes choses qui demande soumission. Et ce ne serait même pas une exagération. On voit dans le verset 7 et dans le verset 8, la fin du verset 7, ce qu'il dit, « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? En quoi t'avons-nous trompé? » On voit dans cette question que le péché rend confus. La première chose que le péché fait, c'est qu'il rend confus. Le péché rend moins sensible au péché. Le péché rend moins sensible, rend moins capable de comprendre, de voir. Nous sommes moins conscients. Le peuple de Dieu dans Malachie pose une question qui contient la réponse. En quoi t'avons-nous trompé? Tout peut faire que nous allons tromper Dieu. Demeurer dans le péché rend aveugle. Les Juifs du temps de Malachie étaient aveugles. Mais nous avons le même cœur. Nous avons le même cœur que ce peuple-là. Le péché cache la réalité. Le péché cache la vérité de notre condition réelle. À cause de la nature pécheresse que nous avons en nous, autant pour les Juifs de Malachie que pour nous-mêmes, nous n'avons pas la victoire sur l'influence du péché dans nos vies. Et cela va faire que l'évaluation du bien et du mal est faussée. Je n'ai pas l'exactitude. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Mais je suis aussi orgueilleux. Parce que leur intérêt est beaucoup plus important. Et mes intérêts aussi sont importants. Parce qu'ils aiment ce que Dieu donne, mais Dieu lui-même présente moins d'intérêt. J'aime bien ce que Dieu me donne. Je me lève le matin et je me dis, « Ah, je suis donc content, je suis donc fier. » Mais Dieu, lui, « Oh, je vais profiter de ce que j'ai. Après tout, j'ai travaillé pour ça. Hein? C'est moi qui est le principal de mon destin. Parfois, nous sommes comme ces gens. Nous nous posons cette question. En quoi est-ce qu'on trompe Dieu? Ça me fait penser à une histoire de Jean de La Fontaine. Vous la connaissez certainement, c'est très populaire comme histoire. La poule qui donnait des œufs en or. Et le fermier se retrouve avec une poule qui donne des œufs en or. Hey, c'est toute une bénédiction, ça. Wow! Sauf que le fermier, il se disait, juste un œuf par jour, c'est pas terrible. Si j'ouvrais la poule, hein, je pourrais avoir tout l'or qui est à l'intérieur de cette poule-là. Là, je serais riche. Et le fermier s'exécute, il rouvre la poule et il se retrouve avec une poule avec des entrailles, puis de la viande, puis des abats, puis tout ce que tu voudras. Une poule normale. Mais la poule est morte. Puis deux. Il a tout perdu. Négliger Dieu, c'est environ la même chose. C'est comme si on tuait la poule. Négliger Dieu, c'est négliger les bénédictions que nous avons. Parce que c'est la source des bénédictions. Nous devons être conscients de notre insouciance de la réalité. Combien de fois mes pensées, mes paroles et même mes actes, conscients ou non, ont trompé Dieu? Il faut être conscient que comme chrétien ou même comme être humain, on doit être dépendant de la manière de penser de Dieu. Non pas de la manière que moi je pense, mais de la manière que Dieu pense. On doit être dépendant de la parole de Dieu et on doit être dépendant de Dieu lui-même. Dans Jean 17, Jésus disait que la vie éternelle, c'est de connaître. Le mot veut dire expérimenter Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça, la vie éternelle. C'est sûr que la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la connaissance de plus en plus personnelle d'un Dieu vivant, va nous rendre conscients de la présence du péché dans notre vie. Ça va nous rendre conscients de la dépendance que nous devons avoir envers Dieu. La lecture de la parole est importante. J'ai une citation dans ma Bible que j'ai écrite, que j'ai trouvée bien belle, disait « La Bible te gardera du péché et ton péché te gardera de la Bible. » Faites attention à ça. Dans les gens de l'Ancien Testament se sont laissés envahir par des raisonnements qui plaçaient en premier leur intérêt. Ce qui était important, c'était leur bien-être, leur avancement. Jusqu'à ce qu'ils trouvent normal de négliger celui qui donne ce bien-être. Celui qui se préoccupe de leur donner les bénédictions. Pour eux, c'est légitime que ce soit eux qui s'occupent d'eux. Ça, c'est normal que ces gens, mais ces gens, à force de voir comme ça, ils sont devenus myopes, matériellement et spirituellement. Ils ont la vue courte. Même s'ils voient un avantage dans l'immédiat, à long terme, ils s'appauvrissent, ils se fragilisent. C'est dans le livre de Jacques. Jacques va plus loin que ça encore. Tromper Dieu, c'est se tromper soi-même. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les Juifs de l'Ancien Testament se sont crus maîtres de leur destinée. Ils ont mené une vie dangereuse, loin de la volonté de Dieu, et priorisant leur propre volonté. Et le plus grand problème n'était même pas cela. Le plus grand problème n'était pas qu'ils s'illusionnaient dans leur raisonnement, mais qu'ils ne désiraient pas revenir. Ils désiraient rester. Ils ne désiraient pas remettre Dieu à l'endroit où il devait aller, où est-ce qu'il doit aller, c'est-à-dire sur le trône de leur vie. Dieu en premier. Aussi, autant pour les Israélites que pour nous, mettre Dieu à la bonne place permet d'observer ses ordonnances, permet de ne pas s'en écarter et permet aussi de bénéficier des bénédictions qui y sont attachées. C'est l'effet que ça fait. Le peuple juif devait réaliser que celui qui pourvoyait à leur bien était l'Éternel des armées. Et Dieu demandait que son peuple soit préoccupé par lui. Et cela se définissait dans le temps de Malachie en disant « Mets de la nourriture dans ma maison. Occupe-toi des choses de ma maison. » Mais pourquoi c'est si important pour Dieu que la dîme soit donnée, que la nourriture dans sa maison soit là? Est-ce qu'il y a un besoin de nourriture? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce qu'il y a besoin de la dîme? Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin. En réalité, ce qu'il demande, c'est pour le bénéfice de son peuple. Il demande pour son peuple. Et pour faire le lien avec aujourd'hui, rappelez-vous ce que Christ disait comme conclusion à propos de l'inquiétude. Dans Luc 12, 33, 34, « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Là où est-ce que les pensées du peuple d'Israël étaient, c'est là qu'était leur cœur. Et c'est là que Dieu voulait voir le cœur des Juifs, auprès de lui. Ce qui intéresse Dieu depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, c'est le cœur de sa créature, le cœur de ses enfants, le cœur de chaque personne. Le cœur, c'est-à-dire ses pensées de ses enfants. Dans le temps où Malachie a été écrit, le moyen que Dieu a utilisé, c'était que les gens s'occupent de sa maison. S'occuper de sa maison, ça voulait dire s'occuper de l'image de la présence de Dieu. Je devais faire attention à ce que Dieu, la présence de Dieu était là. C'était physique. Dieu voulait que son peuple prenne soin de ses affaires. Ça a d'ailleurs été la priorité dans la vie du plus grand homme que la terre a porté. Déjà à 12 ans, il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son père. On parle de Jésus, qui est dans Luc 2, 49. Le genre de pensée que Dieu voulait voir dans son peuple était « Mes brebis ont donné de beaux agneaux, et cela grâce à la providence de Dieu. Je vais lui montrer ma reconnaissance en lui donnant mon plus bel agneau. » Mon champ a donné de superbes récoltes grâce à la providence de mon Dieu. Il mérite certainement que je lui donne les premiers grains, les plus beaux. Ceux qui me portent en vie doivent revenir à Dieu. Et c'est ce que Dieu demandait. Dieu me donne une voiture, une maison, la qualité de vie. Il mérite beaucoup plus que juste une pensée de temps en temps. Il faut comprendre que les principes que Dieu établit ne sont pas pour ses besoins. Dieu n'a besoin de rien. Il se complaît en lui-même. Ce n'est pas un homme pour avoir besoin d'un autre homme ou d'un autre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'attention comme certains humains ou comme tous les humains. Dieu n'a pas besoin qu'on porte son attention sur lui. Il n'y a pas ce besoin-là. En réalité, ce qu'il demande, c'est pour notre bienfait, pour notre bénéfice. La relation qu'il désire établir est pour son peuple, pour le bien de son peuple, pour son avancement, pour son développement. On pourrait lire dans le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Y a-tu besoin de ça? Est-ce que Dieu a besoin qu'on le bénisse pour qu'on le soit béni? C'est faux, ça. C'est un faux raisonnement. Dieu n'a pas besoin d'être béni pour que l'on soit béni. Nous avons besoin que Dieu soit béni pour que nous soyons bénis. Il n'a pas besoin de rien. Le seul besoin, et ce n'est pas un vrai besoin, c'est le peuple qui a besoin, comme nous avons besoin. Dieu créateur est dans le principe de création que nous, si nous priorisons le créateur, la créature sera par le fait même bénie. Si nous priorisons dans notre vie le créateur, la créature, ce que nous sommes, sera par le fait même bénie. Principe de la création. Principe que bien des inconvertis ne veulent pas accepter. Mais c'est un principe que Dieu a placé. Et la liste des bénédictions est à l'image de ce qu'il est lui-même. Et c'est aussi un rappel des promesses qui ont été données dans Deutéronome 28, de 1 à 14. On parle d'un peuple, ici, Malachie parlait d'un peuple qui avait la responsabilité de faire connaître Dieu sur la terre. Une théocratie qu'on appelle. Les promesses et les bénédictions sont en correspondance de cette responsabilité. Dieu veut établir une connexion avec le monde. Et il désire utiliser Israël pour cela. Les bénédictions de Malachie, ça ne me touche pas vraiment. Ce n'est pas vraiment pour moi là, que le peuple d'Israël, 500 ans avant Jésus-Christ, fasse de meilleures récoltes. Ça me laisse un peu froid, ça. Mais pourtant, il y a un lien entre ce qui est dit, ce qui a été dit il y a 2500 ans et aujourd'hui. Il y a un lien. Il y a une connexion qui se fait. Et le premier lien qui se fait est d'abord dans qui a fait les promesses à Israël? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées s'est engagé auprès de son peuple par ses promesses, ses accomplissements, ses accompagnements. Mais cet Éternel des armées, ce Dieu est aujourd'hui ce Dieu personnel qui veut et qui peut remplir ma vie par ses promesses, par ses accomplissements, par ses accompagnements. Premier lien. Le deuxième lien est dans les bénédictions elles-mêmes. Il va dire au verset 10, « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » En abondance. Un terme hébreu qui voulait dire que tout le contenant serait vidé. Il n'y a rien qui serait laissé dans les cieux qui serait gardé par Dieu. Toute bénédiction céleste serait donnée. Ce lien, nous le retrouvons aujourd'hui, en 2020, lorsque la parole de Dieu dit dans Éphésiens, « Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Une bénédiction en relation avec ce que nous sommes pour Dieu, en relation avec ce que nous devons être pour Dieu. Cette expression-là, les Juifs l'ont vécue. Ils ont déjà vécu cette abondance-là. sous le règne d'Ézéchias, dans 2 Chroniques 31-10, ils disent « Depuis qu'on a commencé à porter les offrandes dans la maison d'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons eu beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Comme nous, en obéissance à Dieu, nous serons bénis, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction. Le deuxième, au verset 11, ce qu'il dira au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Deuxième aspect de la bénédiction. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant d'où vient le lait, le pain, et ça, ils vont vous dire d'un IGA. C'est IGA qui fait ça, ou métro, ou je ne sais pas qui, là. Mais dans ce temps-là, tout dépendait de la terre. Ils avaient du lait des chèvres et des vaches si la chèvre ou la vache donnait de la progéniture. Sinon, ils n'avaient pas. Le pain sur la table dépendait de la récolte, si la récolte était bonne, et si la récolte allait jusqu'au terme. La survie du peuple était attachée à une production agricole abondante et protégée de ce qui peut la dévorer. Et c'était un atout majeur. Je regardais les nouvelles il y a quelques jours, puis un producteur agricole disait, à cause de la sécheresse, qu'ils ont été obligés de ressemer tout ce qu'ils avaient semé. Tout avait été brûlé sur le champ. Il dit, s'il n'y a pas de pluie avant quelques jours, je vais être obligé, je ne serai plus capable de ressemer, ça va être trop tard. Je vais tout perdre. Il n'y aura plus rien qui va pousser. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ce qu'on ne produit pas ici, on va aller le chercher aux États-Unis ou ailleurs. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas comme ça. Lorsque ça ne poussait pas, tu n'avais rien à manger. Et cette production agricole-là devait être protégée. Eh bien, ce que Dieu dit à quelque part, tout ce qui pourrait dévorer ta récolte, je vais t'en protéger. Ici, il est question des sauterelles. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de fléaux. Mais quel est ce lien aujourd'hui avec aujourd'hui? C'est que nous ne perdrons rien des gestes d'amour que nous avons eus à l'égard du nom de Dieu et de son peuple. Et le verset dans Hébreu nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Vous avez peut-être été gentil envers quelqu'un, vous avez peut-être fait un don ou quelque chose comme ça, il s'est mis en banque. Et ça ne sera jamais enlevé. Il n'y aura jamais de crash spirituel qui va faire en sorte que vous allez perdre des récompenses. Tout va être récompensé. Il dit même ailleurs que même le simple verre d'eau donné à un prophète va recevoir sa récompense. Nous avons un service protégé. Et le troisième point, les nations vous diront heureux, au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Les bénédictions de Dieu ont une portée beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser. Ils auraient l'occasion d'être des témoins fidèles comme le peuple du seul vrai Dieu. Ils seraient reconnus comme un peuple béni et un peuple béni de Dieu. Et ils seraient un témoignage par leur obéissance. Une nation reconnue de tous comme étant heureux. Un pays de délices. Dieu parlait non seulement des promesses, mais aussi des conséquences heureuses de ces promesses-là. Tout le monde serait gagnant, le peuple serait gagnant, Dieu serait gagnant. Ici, Dieu parle de son peuple terrestre qui bénéficie des promesses terrestres, avec des conséquences vues par toutes les nations. Ce serait la même chose pour nous. Aujourd'hui, on est plus rejeté qu'accepté. Parlez de Dieu à n'importe qui dans la rue et on va vous traiter d'illuminé. J'écoutais un reportage d'une femme qui disait à quelque part que maintenant, les unions hétérosexuelles, c'est dépassé, ça devrait être enlevé. Bien, voyons donc, qu'est-ce qu'elle pense? Toutes sortes de faux raisonnements, toutes sortes de faussetés qui viennent. Mais plus tard, nous serons reconnus comme ayant ceux ayant la meilleure part. Lorsque nous viendrons avec lui, votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et un jour, on va voir ce pourquoi, aujourd'hui, nous faisons. Il y avait une phrase qui disait, « Nous sommes aujourd'hui dans le monde des pourquoi. » Mais un jour, on va s'en aller dans le monde des parce que. Et c'est cela qui nous attend. Et toutes ces promesses-là, tous ces principes-là que Dieu établit dans Malachie se retrouvent aujourd'hui, en 2020. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Et c'est pour cela que l'on se réunit à toutes les semaines pour lui donner gloire, car lui-même va nous glorifier, lui-même va nous donner gloire. Pas parce qu'on le mérite, certainement pas parce qu'on le mérite, mais tout simplement parce qu'il le désire. Je vais permettre aux musiciens de monter en scène pour pouvoir faire un dernier chant et je vais conclure par une prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces principes que tu établis qui fait de nous, Seigneur, des êtres privilégiés. Tu nous as donné beaucoup plus que ce qu'on peut te donner. Tu veux nous donner beaucoup plus que ce qu'on peut te donner. Nous savons que ce n'est pas nos mérites, Seigneur, mais c'est tout simplement parce qu'on a mis notre confiance en toi, parce que nous mettons tous les jours notre confiance en toi que tu veux nous bénir. Nous voulons fonctionner comme ça, Seigneur, nous voulons fonctionner quotidiennement dans cet aspect de confiance mutuelle. Nous voulons te faire confiance, nous voulons s'occuper de tes affaires, Seigneur, nous voulons s'occuper de toi, afin que toi, tu aies le privilège, tu aies la joie, Seigneur, de t'occuper de nos affaires. Nous te remercions, Seigneur, nous te rendons gloire de ce principe merveilleux que tu as mis dans nos vies, pour ta gloire et pour ton nom. C'est bien. Merci, mes frères et sœurs.